Merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris. C'est une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe qui commence. Et puis à midi, temps universel, votre journal Charlotte Hydrac, avec à la une cette interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 12 pays.
Oui, Haïti, Libye, République du Congo, Tchad ou encore Birmanie, décision du président américain pour protéger son pays selon lui. Et il y a un précédent, on le verra, le Muslim ban en 2017 lors de son premier mandat. Israël parle d'une opération spéciale. Les corps de deux otages israélo-américains enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023 ont été ramenés depuis la bande de Gaza. Gaza toujours pilonnée par l'armée israélienne.
À suivre aussi la visite d'État de Lula en France.
Le président brésilien appelle Emmanuel Macron à conclure l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Il affirme aussi que la reconnaissance de l'État de Palestine est un devoir moral. Un vote symbolique des députés français aujourd'hui pour l'abrogation de la réforme des retraites adoptée il y a 2 ans. Et puis la bluffante française Loïse Boisson attendue en demi-finale du tournoi de tennis de Roland-Garros en fin d'après-midi. Ce sera face à l'américaine Coco Gauff, numéro 2 mondial.
A tout à l'heure Charlotte, votre journal dans un peu moins d'une demi-heure.
A tout à l'heure.
RFI, l'Europe à midi.
La Russie décidera quand et comment riposter à l'attaque de drones ukrainienne, attaque qui a détruit il y a quelques jours plusieurs avions russes. Et à en croire Donald Trump qui a parlé hier au téléphone avec Vladimir Poutine, cette réponse sera spectaculaire. Ce nouvel appel entre les deux dirigeants n'a pas permis de faire avancer quoi que ce soit. Un cessez-le-feu reste toujours aussi hypothétique et dans ce contexte de guerre qui s'éternise, les pays de l'OTAN se réunissent aujourd'hui. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Correspondant à Bruxelles. Alors, les ministres de la Défense de l'OTAN doivent préparer le sommet de leur organisation qui est prévue dans un peu moins de 3 semaines maintenant, dans un climat assez particulier. D'ailleurs, le représentant américain Pete Hegseth n'était pas hier à la réunion sur l'Ukraine. Il répète pourtant aujourd'hui que les Européens doivent s'engager à consacrer 5% de leur PIB à la défense au plus tard en 2032.
Oui, il faut dire que les alliés européens ainsi que le Canada sont déterminés pour l'instant à s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump puisque les États-Unis restent le pilier de l'Alliance Atlantique. L'objectif précédent fixé en 2014, c'était de dépenser 2% du produit intérieur brut pour la défense. Et au moment de l'éclatement de la guerre en Ukraine, moins d'un tiers des alliés y étaient parvenus. Et ce, malgré les coups de boutoir de Donald Trump lors de son premier mandat. Depuis, la situation évidemment a bien changé. Les États-Unis ont même été dépassés par la Pologne qui a franchi la barre des 4% l'an dernier, elle vise 4,7% cette année. Mais pour la plupart des autres, ce sera difficile, mis à part les Baltes, qui plaident même pour raccourcir le délai à 2030. Certains autres pays verraient d'un bon œil un délai de 10 ans. Résultat, on s'apprête ici à concocter une formule avec 3,5% de dépenses militaires pures, 1,5% de dépenses, je cite, contribuant à la défense, par exemple dans la cybersécurité, voire les infrastructures, par exemple un aérodrome civil dont on rallonge les pistes pour une utilisation militaire potentielle, ou un pont qu'on renforce pour permettre le passage de chars lourds de 55 tonnes.
Alors, est-ce qu'il y a de la part des Européens une tentative de donnant-donnant, de marchandage avec la Maison-Blanche ?
Effectivement, d'un côté, il est certain que l'invasion russe en Ukraine a sonné le branle-bas et les Européens savent tous désormais qu'ils doivent se renforcer. Mais de l'autre côté, ils espèrent aussi que Donald Trump verra cet effort financier de leur part comme une victoire personnelle et se laissera infléchir pour continuer à soutenir l'Ukraine. Malheureusement pour eux, le président américain leur paraît trop proche de la position de Vladimir Poutine depuis la dernière conversation que vous évoquiez. Et combiné avec l'absence de Pete Hegseth lors de la réunion du groupe de contact pour l'Ukraine, ce mercredi, il y a là de sombres auspices puisque c'est la première fois qu'un ministre américain de la Défense ne participe pas à ces réunions surnommées groupe de Rammstein et qui avait justement été initié par les États-Unis eux-mêmes du temps de Joe Biden.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Ce désengagement américain pousse depuis quelques mois un certain nombre de pays en Europe à renforcer leur défense. La France, le Royaume-Uni par exemple, ou l'Allemagne qui est en train d'opérer un changement radical sur la question, plus de dépenses, quitte à faire sauter les règles budgétaires jusqu'à présent intangibles. Et puis il y a aussi la volonté de recruter davantage. Pascal Thibault, vous êtes en direct de Berlin où le gouvernement veut attirer entre 50 et 60 000 soldats supplémentaires. Ça ne sera pas facile.
Non, effectivement, c'est l'annonce qu'a fait ce matin, même si elle est approximative, le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius lors d'une rencontre à Bruxelles avec ses homologues donc de l'OTAN. L'Allemagne aura besoin, d'après donc le ministre, dans les prochaines années, de 50 000 à 60 000 soldats supplémentaires. Ça paraît relever de la gageure dans la mesure où la Bundeswehr a déjà beaucoup de mal à séduire les Allemands. Actuellement, l'armée allemande compte 180 000 membres et l'objectif actuel c'est d'un peu plus de 200 000. On trouve des centres d'information dans les grandes villes, il y a des campagnes dans les médias, des séries sur le net pour rendre la Bundeswehr un peu plus glamour et sexy, mais ça reste compliqué. Vous le disiez à l'instant, l'Allemagne avec la réforme récente de la Constitution prévoit le quoi qu'il en coûte pour les dépenses militaires qui seront désormais illimitées, mais tout cela ne peut fonctionner que si évidemment on dispose de plus d'effectifs, a fortiori avec les engagements supplémentaires dans le cadre de l'OTAN. Alors le contrat de coalition qui a été conclu il y a quelques semaines entre les chrétiens et les sociodémocrates prévoit pour l'instant sur une base volontaire que l'on recense tous les jeunes de 18 ans pour essayer de les convaincre de faire une carrière militaire, mais l'Allemagne ne veut pas exclure de rendre cette procédure contraignante sans pour autant réintroduire la bonne vieille conscription d'antan.
Pascal Thibault en direct de Berlin. La guerre en Ukraine qui s'affiche dans la presse européenne, le journal grec Tanea analyse la progression des forces russes avancées dans la région de Soumy où Moscou veut installer une zone dite de sécurité. Cette progression, elle se déroule au rythme le plus rapide depuis le début de l'année, nous dit le journal. The Guardian révèle en exclusivité une découverte scientifique qui représente un espoir majeur dans la lutte contre le sida. La capacité du virus à se dissimuler dans certains globules blancs a constitué l'un des principaux défis pour les scientifiques depuis le début. Et aujourd'hui, ils ont découvert le moyen de mettre le virus à jour, y compris à l'intérieur des cellules humaines, de le faire sortir de sa cachette, nous dit le journal. Ça signifie que cet réservoir de VIH dans l'organisme, capable de se réactiver, ne serait plus caché et pourrait donc être traité par les médecins et par les médicaments. À lire aussi, pas dans la presse européenne, mais à propos de l'Europe, des articles dans plusieurs journaux du Maghreb qui s'inquiètent de l'islamophobie grandissante en France. El Ouattan rappelle qu'en 2 mois, 2 meurtres odieux ont endeuillé la communauté musulmane. Et Yali Bladi ou El Mouhajid reviennent sur le dernier exemple en date, le vol d'un exemplaire du Coran dans une mosquée près de Lyon.
RFI Midi. Anne Contner.
L'islamophobie qui pousse de plus en plus de Français musulmans à quitter leur pays. Certains ont fait le choix de s'installer en Turquie, dans la station balnéaire d'Alanya, pas seulement pour ses plages de sable blanc, mais surtout parce qu'elle propose des résidences dites islamiques et francophones. C'est une initiative unique en Turquie et notre correspondante Manon Chaplin est allée visiter les lieux.
Je vous emmène ce matin à Kargıcak. C'est un quartier très construit, très apprécié des expatriés ici à Alanya. Et plus précisément à Salamin. Salamin, c'est la première résidence islamique francophone qui a été construite ici il y a 4 ans. C'est un immeuble assez luxueux, à quelques rues à peine de la plage. Et on a rendez-vous avec Nesrine. C'est une franco-algérienne de 25 ans. Elle vient d'aménager il y a 3 semaines ici avec son mari et a accepté de nous parler. C'est pour le moment l'une des seules. Les Français arrivés ici sont très méfiants à l'égard de la presse. Peu d'entre eux ont accepté de témoigner micro ouvert.
Bienvenue. Merci. L'ascenseur va bouger vers le haut. Petit appartement. L'espace cuisine. Voilà, avec tout l'électroménager qu'il faut. Là, c'est une salle de bain. Voilà, donc avec une grande douche.
Là, tu as une chambre.
Voilà. Là, quand tu laisses ton mari partir le dernier, il va pas ouvrir. Tu vois. Le balcon, il est bien grand. Je compte mettre des petits, tu sais, un petit salon turc traditionnel. Ça va être plus sympa pour s'asseoir avec tapis. Ça va être beaucoup plus sympa.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup pourquoi vous avez décidé de quitter la France dernièrement ?
Bon, premièrement, c'est pour la religion. Je suis de confession musulmane et on se retrouve avec le même confort que la France, mais dans un pays où on pratique notre religion sans problème. On a un ami à nous qui est là. Il
il était installé. Et Marie, ils lui ont parlé d'une résidence où il y avait une bonne communauté de musulmans immigrés de France, avec mosquée, école, le confort, en fait, le confort qu'on a en France, même mieux, je dirais, parce que lui et moi, on vient d'HLM. Hein. On a grandi dans des quartiers, ce qu'on peut dire, pas défavorisés, mais c'était pas non plus... Voilà, on est de l'autre côté du périph', comme on dit.
Vous venez d'où exactement?
On vient du 94, plus particulièrement la Île-des-Roses. Et même comme c'est une résidence aussi islamique, on a tendance à préférer qu'il y ait des personnes qui sont de la même confession que nous qui viennent. C'est pas du communautarisme ou quoi. Hein. Enfin, c'est un peu du communautarisme, mais c'est gentil, c'est de manière passive. Voilà. Ça reste aussi moderne, très moderne. Et ça, c'est bien. On a notre petit confort.
Et à Lamia, ouais.
Lamia, c'est le rêve. Le soleil, la plage, c'est top.
Extrait du grand reportage de Manon Chapelain que vous pouvez écouter ce soir à 19h40, temps universel. L'actualité européenne, c'est aussi la colère en Italie qui ne retombe pas 6 jours après l'adoption d'une loi sur la sécurité voulue par le ministre d'extrême droite Matteo Salvini. Le texte, dénoncé par l'opposition, prévoit des restrictions à la liberté de manifester et surtout un durcissement très net de la politique migratoire. Anne Lenier.
Parmi les mesures les plus critiquées par l'opposition, on peut citer le renforcement de la protection et de l'aide financière pour les policiers ou carabiniers mis en cause dans des dossiers de violence. Autre disposition décriée, le durcissement des peines pour les révoltes dans les prisons ou dans les centres pour migrants, même s'il s'agit de résistance passive. Ou encore, l'obligation d'incarcération pour les femmes enceintes ou mères d'un enfant en bas âge, coupables de délits comme le vol à la sauvette. D'après Elie Schlein, leader du Parti démocrate, la droite et l'extrême droite plongent l'Italie dans un lointain passé.
Ce décret loi sécurité nous ramène au temps du code fasciste Rocco, adopté en 1930. Mes compliments.
Mais l'inspirateur du texte législatif, Matteo Salvini, vice-président du Conseil et chef de la Ligue, se réjouit.
C'est une belle journée. Finalement, ce décret-loi sera converti en loi avec des règles de civilité.
Giorgia Meloni lui fait écho sur X. Le gouvernement accomplit un pas décisif pour accroître la protection des citoyens et des hommes et femmes en uniforme. Anne Lenir, Rome, RFI.
Reportage maintenant en Lituanie, où la communauté LGBT attend, espère, une loi prochaine pour autoriser les unions civiles entre personnes de même sexe. Pour l'instant, ça n'existe pas en Lituanie, contrairement aux autres pays baltes. Et la Cour constitutionnelle a estimé récemment que l'absence d'union possible était contraire à la Constitution. Elle a demandé au gouvernement d'agir pour rectifier la situation, mais ça n'est pas encore gagné. Il existe beaucoup de réticences, tellement que de nombreux couples homosexuels préfèrent garder leur relation cachée. Reportage, Marielle Vituro.
Toute leur vie, Vitalius, 71 ans, et son compagnon Albinas ont vécu à l'écart. Le couple, qui a presque 15 ans de différence, vit aujourd'hui dans un petit village à une centaine de kilomètres de Vilnius. Au soleil, un café sur la table du jardin, Vitalius raconte.
Nous nous présentions toujours comme père et fils. Nous avions une vie très recluse. Nous étions toujours tendus. Un jour, récemment, j'ai accompagné Albinas chez le docteur. Elle m'a demandé mon nom de famille. Elle avait celui d'Albinas. Comment vous pouvez être père et fils avec des noms différents? J'ai dit que j'avais été adopté.
À Vilnius, les activistes se préparent pour la prochaine marche des fiertés. Martinas Norbutas, rédacteur en chef d'un site d'information pour la communauté LGBT, a rendu public son mariage célébré avec son partenaire en Belgique. Mais cet ancien vice-ministre de l'Environnement est l'une des rares personnalités publiques à s'afficher.
En Europe, la Lituanie est un des pays où la situation reste très difficile. 60% des homosexuels se cachent sur leur lieu de travail. Ils sont 50% à n'avoir rien dit à leur famille de leur orientation. Le résultat, c'est que dans l'espace public, ceux qui sont les plus audibles sont ceux qui veulent les faire taire.
Être homosexuel n'est plus un délit comme à l'époque soviétique et désormais les personnes gays peuvent donner leur sang, énumère Vitalius. Ce sont les seules choses qui ont changé depuis le retour à l'indépendance de la Lituanie il y a 30 ans. C'est l'inaction des politiques qui l'a encouragé à parler dans un documentaire radio primé dans de nombreux festivals.
C'est par colère que j'ai décidé de parler de tout ça. En 2020, j'avais voté pour un parti qui promettait une union légale pour les couples LGBT et un an après, je voyais bien que rien n'avait avancé. Alors j'ai pris les devants. Je me suis mis à contacter un, puis deux, puis trois députés qui votaient toujours contre cette union.
Mais la société civile manque de réaction, estime Arturas Rudomanskis. Avec son association pour la jeunesse tolérante, il part souvent à la rencontre des jeunes gens et reste déçu.
Je dirais que les gens sont de plus en plus enclins à faire leur coming out et souvent, dans le milieu scolaire, c'est avec les professeurs qu'il est difficile de parler des questions LGBT plutôt qu'avec les élèves. Mais est-ce que pour autant la communauté est prête à se battre pour des changements? Je dirais que non. De façon générale, les gens en Lituanie s'engagent peu.
Martinas Norbutas, lui, a attaqué la Lituanie en justice pour non-reconnaissance de son mariage à l'étranger. Son cas est désormais à l'étude à la Cour européenne des droits de l'homme. Il pointe du doigt l'un des responsables de cette situation en Lituanie.
L'Église a toujours une influence considérable. La classe politique, même dans les plus hautes sphères, applique ses convictions religieuses à la conduite des affaires de l'État, même si l'État et l'Église sont séparés dans la Constitution. C'est un héritage de l'époque soviétique où l'Église et la religion étaient des bastions de résistance pour une Lituanie indépendante et démocratique.
La toute première marche des fiertés a eu lieu il y a 15 ans. Il y avait 350 participants derrière des barrières, protégée par deux fois plus de policiers. Cette année, la marche des fiertés promet d'être plus importante que jamais et devrait dépasser les 10 000 manifestants. Elle sera surtout très festive. Arturas Rudomanskis voudrait que les messages y soient plus politiques.
Il y a de nombreuses questions à régler dans le droit du travail pour l'union civile ou le droit des personnes trans. Ce serait bien que les entreprises qui dépensent des milliers d'euros dans un camion qui défile lors de la marche investissent un peu de cet argent pour soutenir la communauté LGBT.
En tête de cortège, les slogans seront politiques. Même si la Cour constitutionnelle a sommé les autorités de résoudre la question de l'union civile dans un délai raisonnable, aucune proposition de loi n'a encore été soumise au Parlement et la coalition actuelle ne semble pas faire de cette question une priorité.
Reportage à retrouver dans l'émission Accent d'Europe ce soir à 17h10, temps universel. On le voit partout sur les réseaux sociaux, le voilier de la flottille pour la paix. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Ce bateau, il voyage en ce moment en mer Méditerranée.
Oui, c'est un petit voilier, le Madeleine. Il est actuellement au sud de la Crète. On peut suivre sa position en direct sur Internet par un site, Garmin Live Track. Ce voilier, il a une direction, la bande de Gaza. À son bord, quelques vivres, jus de fruits, lait, riz, conserves, mais aussi et surtout des militants pro-palestiniens, notamment la Suédoise Greta Thunberg et la députée européenne Rima Hassan. Objectif, briser le blocus maritime imposé par Israël depuis 2007. Je rappelle que la bande de Gaza est une prison à ciel ouvert, personne n'en sort, personne n'entre, à part quelques travailleurs humanitaires apportant de maigres denrées alimentaires. La population est affamée, d'où le sens de ce voyage.
Et est-ce que le voilier a une chance d'arriver à Gaza ?
C'est fort improbable. L'armée israélienne dit se préparer à l'arrivée du navire sans préciser exactement comment. Ce n'est pas la première fois qu'un bateau humanitaire tente d'approcher Gaza. Ce voyage s'inscrit, vous l'avez dit, dans la coalition de la flottille pour la liberté qui envoie des bateaux de ce genre depuis 15 ans. Le dernier en mai a coulé, attaqué par des drones. Mais cette fois, ce bateau rempli de stars de l'humanitaire n'a peut-être pas comme but seul de rallier Gaza.
Ah bon ?
Oui, l'objectif est aussi de faire parler, de mettre en lumière le blocus israélien sur Gaza. Écoutez l'eurodéputé Rima Hassan juste avant d'embarquer dimanche.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous embarquons aujourd'hui à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Le seul moyen de garantir le succès de cette mission, mais également notre sécurité, c'est la mobilisation citoyenne. On compte sur vous pour partager l'initiative, mais aussi pour suivre la traversée.
Partager, suivre. Un site internet permet donc de voir le voilier en avancer en temps réel et les membres d'équipage partagent des vidéos à bord toute la journée dans l'attente d'arriver sur la côte palestinienne.
Là aujourd'hui, on a suivi à peu près 5 heures de formation pour nous préparer aux différents scénarios. Le premier, c'est d'arriver à Gaza. Le deuxième étant d'être intercepté par les autorités et donc d'être arrêté. Le troisième étant d'être attaqué. Donc à noter que si on est attaqué avec ce bateau, on coule.
Voilà Rima Hassan qui apparaît en story Instagram avec ses coéquipiers kéfiers palestiniens autour du cou sur le pont du navire toute voile dehors en pleine mer Méditerranée.
Et tout ça est suivi par de nombreux internautes, notamment français.
Oui, il faut dire que la plupart des membres d'équipage sont français. Leurs posts sont partagés, likés des centaines et des centaines de milliers de fois. Écoutez Kajira, que j'ai rencontrée dans une mobilisation pro-palestinienne à Paris. Elle suit la position du bateau jour et nuit sur son téléphone portable.
Cette nuit, j'ai pas mal veillé, mais avec beaucoup d'appréhension. Surtout que Rima Hassan a publié un post où elle disait que l'armée sioniste s'apprête à accueillir. Comment ? Donc voilà, on s'interroge. On a peur pour eux, mais s'il arrive quoi que ce soit à ces personnes sur ce bateau, ça va réveiller en nous des Rima Hassan et des Greta Thunberg en puissance.
L'arrivée du voilier au large de Gaza est prévue d'ici dimanche.
Théo Renaudon.
RFI, l'Europe à midi.
Il y a du football à suivre ce soir. Demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l'équipe tenante du titre, l'Espagne. Les joueurs pourront compter sur leurs supporters. Les Espagnols sont ultra motivés derrière leur équipe. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu un tel enthousiasme, Pierre Chaperon.
Des maillots de la Roja sur les terrasses, des drapeaux aux fenêtres, au pays du football de club, l'Espagne vit au rythme de sa sélection. La Ligue des Nations remportée il y a 2 ans, l'Euro décroché l'an passé, ont fait remonter l'engouement. Pour José, 23 ans, l'équipe incarne aujourd'hui bien plus qu'un palmarès.
La victoire à l'Euro nous a séduits. Une caractéristique de cette équipe, c'est que les joueurs viennent de tous les horizons, non seulement des grandes équipes comme l'Atlético, le Real Madrid ou le Barça, mais aussi de toutes les régions. C'est ce qui attire davantage les supporters.
Autre argument, la jeunesse. 10 joueurs sur les 26 sélectionnés ont moins de 23 ans. Un vent de fraîcheur qui emballe les supporters, comme Jordi, fan du Barça.
Les joueurs nous ont redonné envie d'y croire. Avec leur jeunesse, on se remet à vibrer pour eux. Lamine Yamal, c'est le ballon d'or. Mais il n'est pas le seul. Pedri, Cubarsí, l'Espagne est candidate pour remporter le Mondial 2026.
Lamine Yamal, 17 ans seulement, est la star annoncée de ce choc. Un partidazo, comme on dit ici, face aux voisins français que beaucoup en Espagne pensent déjà remporter. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
France-Espagne, le match commence à 19h, temps universel, et vous pourrez le suivre en direct et en intégralité sur RFI. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture, aujourd'hui le fondateur du festival Sakifo. 3 jours de musique sur l'île française de La Réunion avec des artistes venus du monde entier, d'Afrique, de l'océan Indien, d'Amérique et d'Europe. Le mot d'ordre du fondateur, Jérôme Galabert, c'est l'ouverture d'esprit. Il en parle à José Marinho.
Jérôme Galabert, bonjour.
Bonjour.
Le Sakifo revient avec une programmation qui frappe fort. On retrouve des figures comme Fatoumata Diawara, Zao de Sagazan, Pixel, Nectarwood. C'est une palette musicale assez riche, mais alors pourquoi ces choix ?
Toujours pour respecter l'ADN du festival, c'est-à-dire que le Sakifo, c'est un festival réunionnais. On est assez fiers d'accueillir de la diversité à l'image de la population réunionnaise et de la musique réunionnaise aussi. Et on la respecte dans l'ensemble sur la programmation, y compris sur les différentes scènes. Parce que tu parlais de Fatoumata Diawara, donc on est enfin heureux parce qu'on a eu post-Covid des annulations et tout ça. Et donc on est enfin heureux de l'accueillir sur la grande scène. Il y aura Féfé et Petit Biscuit, ce qui te donne une idée de l'éclectisme qu'on peut avoir sur une même scène, quoi.
Jérôme Galabert, qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire cette édition ?
Elle raconte encore plus aujourd'hui qu'hier. On a besoin de pouvoir se rassembler, on a besoin de pouvoir démontrer qu'on peut tous être ensemble. On a coutume de parler du vivre ensemble réunionnais. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une ambition, une nécessité, un bonheur, une joie. Voilà, elle essaye de dire modestement, à la place qui est la nôtre, en toute humilité, que tout ça est quand même beaucoup plus intéressant et positif que plein d'autres choses qui peuvent se passer autour de nous.
Jérôme Galabert, c'est plus qu'un festival de ça qu'il faut, vous venez de le dire, c'est un état d'esprit aussi, mais dans un contexte global où la tendance est au repli sur soi, à la fermeture des frontières, comment réussissez-vous à conserver cet esprit d'ouverture ?
Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne sait pas faire autre chose que ça, parce qu'on ne sait pas dire autre chose que ce qu'on est, que ce en quoi on croit. On a tous besoin d'amour et que c'est bon de distiller un peu d'amour. Moi, je crois en la fraternité, même si autour de nous, on voit que c'est pas ça qui l'emporte partout. C'est pas pour autant qu'on arrêtera, on renoncera jamais à être ce qu'on est. Je pars de loin,
le frigo plein l'égalité, j'ai eu ni l'un ni l'une ni l'autre. Jérôme Galabert, on dit souvent que la musique ne change rien, qu'elle est juste un divertissement parmi d'autres, mais le sac qu'il faut, se veut-il aussi un festival qui prône un message politique à travers sa programmation et son atmosphère?
On assume d'avoir une dimension politique au sens noble du terme, c'est-à-dire promouvoir des valeurs, quelque chose qui nous paraît être nécessaire à l'humanité. Je crois avec la même ardeur, dans son nom même, il y a une affirmation politique, puisqu'on dit c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est quelque chose qui est très politique, c'est une affirmation. Et ce qu'il y a d'au moins rassurant, par les temps qui courent, c'est que la fréquentation du festival augmente ces dernières années, qu'elle est aussi rajeunie, qu'elle est très féminine, là encore, porteuse d'espoir.
À qui s'adresse justement le ça qu'il faut aujourd'hui et comment s'adapte-t-il aux attentes d'un public qui change sans cesse?
Il s'adapte en essayant de rester à l'écoute de ce public, de ses attentes, et sans perdre ses convictions. C'est un équilibre subtil entre répondre aux attentes des jeunes, mais sans perdre une tradition intergénérationnelle du public. Voilà, le fait que tout le monde puisse s'y retrouver.
C'est ça qu'il faut.
C'est ça qu'il faut.
Merci Jérôme Galabert.
Merci à toi.
Jérôme Galabert, fondateur du festival Ça qu'il faut, au micro de José Marinho. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans 3 minutes, l'essentiel de l'actualité internationale et puis à 12h30, temps universel, comme chaque jour, l'actualité africaine avec vous Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et à la une aujourd'hui.
Aux États-Unis, le président Donald Trump remet en place un travel ban, une interdiction de voyage pour les ressortissants de 12 pays. En Afrique, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan sont concernés. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et puis en République démocratique du Congo, les négociations entre le gouvernement et l'AFC M23 au Qatar font du surplace aucun progrès depuis fin avril. Résultat, les représentants du mouvement armé ont quitté Doha et sont rentrés à Goma.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et puis avant cela, on reparlera nous aussi de ce travel ban imposé par l'administration Trump qui concerne, en plus des pays que vous avez cités, Haïti et le Venezuela notamment. Mais tout de suite, un peu de musique. Il donne, et ce titre à découvrir en ce moment dans la playlist à la fille, Jenny Papo Robot.
Espaço. Jenny Papo é bom, muito bom, bom, bom. sangue latino, me leva pro seu lado. Seu fogo é quente, queima a mão da gente. Pimenta malagueta, cava de vulcão.